One, two, three, ho!
Tu sais ce qui se passe, Florian, quand Greta montre la catastrophe environnementale?
Bah oui, l'idiot regarde Greta. Salut tout le monde, c'est Pause Vélo. Il n'y a pas si longtemps que ça, la semaine dernière, c'était la fête de la science. Alors qu'est-ce qu'on a fait, Arnaud?
On s'est renseigné sur le vélo?
Ouais, du point de vue scientifique. Et aujourd'hui, on est avec un youtubeur science. On est avec Je m'énerve pas, j'explique. Comment ça va, Bertrand?
Ah, ça va très bien. C'est mon premier podcast. Ça
radio
va bien se
passer. Yeah.
Ouais, respire.
Non, tout va bien.
Non, alors tu vas nous parler de comment ça se fait qu'on tient en équilibre en vélo quand on pédale. Et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose pas, c'est quelque chose qu'on fait instinctivement, mais quand on commence à réfléchir, eh ben c'est un peu corsé.
Merci d'avoir posé la question.
Alors il paraît que ça va tenir au moins toute l'émission pour qu'on puisse comprendre, c'est bien ça, Bertrand?
Ouais, c'est fort probable.
Explique-nous, comment on fait pour tenir en équilibre en vélo quand on pédale?
C'est une question en apparence simple et je vais essayer d'y apporter des réponses simples. Mine de rien, faire du vélo, ça ressemble à un numéro de funambule, hein, surtout sur un vélo de course.
Ouais, c'est de l'équilibrisme. Hein, ouais.
Voilà, ouais, les pneus sont très fins sur un vélo de course, donc l'équilibre est très précaire. Un vélo, c'est tout ce qu'il y a de plus instable. Je ne sais même pas pourquoi quelqu'un a inventé ça. Au lieu de donner tout de suite la solution, j'aimerais d'abord vous poser une première question. Est-ce que vous savez tous, vous les membres de cette émission, faire du vélo?
Tu nous prends pour qui, Bertrand, là?
Ça fait partie du protocole, hein. Je suis désolé.
C'est Bertrand, il explique. Ah oui, pardon.
C'est très bien, vous savez faire du vélo, c'est parfait. Ça veut dire qu'au moins inconsciemment, vous savez comment le faire tenir en équilibre, ce qui est fort.
Ouais, c'est,
pas,
vrai,
c'est déjà
vrai.
Pas mal.
C'est complètement inconscient, ouais.
Voilà. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui se passe physiquement pour qu'un vélo, qui de toute évidence ne tient pas du tout debout à l'arrêt, semble très stable lorsqu'on roule. Je vous laisse faire des propositions. D'après vous, physiquement, pourquoi on ne perd pas l'équilibre?
Je pense que quand on pédale, en fait, on n'arrête pas de tomber, en fait, finalement. Puis à chaque fois, on compense. C'est ma version du truc, mais je ne sais pas pourquoi. Si je peux te dire un truc, Bertrand, je m'énerve pas, j'explique.
Ouais.
On a accueilli un prix Nobel dans l'émission.
Ah ouais.
Et même lui se posait la question. Même lui disait, c'est incroyable qu'on tienne en équilibre.
Voilà, la réponse d'Eric est pas mal. On s'approche de la bonne réponse. Ça m'amène à une deuxième question. Ma deuxième question, c'est, imaginez, vous roulez à 50 km par heure, comme d'habitude.
50,
ouais.
Oui.
Ouais, voilà. Vent de face, sans monter, quoi.
C'est ça, vous êtes en ligne droite. Et disons que votre vélo, il commence à pencher dangereusement à droite. Donc, a priori, si vous ne faites rien, vous allez tomber à droite. Votre but, c'est de ne pas tomber. Enfin, j'espère, en tout cas.
Ouais.
Donc, si votre vélo penche à droite, il faut le ramener vers la gauche. Donc,
oui.
Vous tournez le guidon vers là.
Oh, mais son poids...
Bon, ouais, là... mais c'est le poids.
Ah, là, ça y commence.
Non, moi, je parle que du guidon. Non, mais il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Donc, vous avez dit gauche. Donc, il faut ramener le vélo vers la gauche.
Ouais,
donc,
ouais. Donc, on tourne à gauche.
Alors là, vous venez de faire exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Vous venez de faire une chute à 50 km par heure. Hein, je suis désolé pour vous. Vous avez, en faisant ça, précipité votre chute. Vous avez aggravé la situation. C'est bizarre. Pourtant, vous savez faire du vélo. La bonne réponse, en fait, c'était quand le vélo penche à droite, il faut tourner à droite pour faire revenir le vélo à la verticale.
Ah non, mais c'est vrai, t'as raison. Des fois, on est en train de tomber, puis on se dit, si je compense de l'autre côté, je vais me casser encore plus la gueule. Des fois, ça arrive, ça.
Je vais aller essayer, je reviens.
Mais en fait, c'est pas des fois, c'est tout le temps. C'est totalement contre-intuitif, mais je vous assure que c'est ce que vous faites tout le temps, même en ligne droite, sans réfléchir. Et c'est en partie ce qui explique pourquoi c'est difficile d'apprendre à faire du vélo. Au début, on comprend pas pourquoi on tombe. En bonne partie, parce qu'on a le réflexe de tourner à gauche quand on penche à droite et inversement. Et on tombe. Finalement, apprendre à faire du vélo, c'est apprendre à combattre son instinct au point de faire carrément l'inverse de ce que notre instinct nous dicte, justement. Bon, là, vous êtes sceptique, hein, je vous vois froncer les sourcils, ce qui est
non,
pas très radiophonique.
Hein, je suis subjugué, là.
Ouais, non. En fait, c'est très très simple. Je vous affirme un truc, mais il va falloir montrer pourquoi j'ai raison. Pour comprendre, faisons un tout petit appel à la physique, afin de se rendre compte qu'en fait, sur un vélo, eh ben, on tombe tout le temps. Soit à gauche, soit à droite, constamment autour de la position d'équilibre. Et pour empêcher la chute, on utilise constamment ce que beaucoup de personnes appellent la force centrifuge.
Ouais.
Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la force centrifuge?
Ah, mais il nous prend pour des gogoles ou quoi, ouais, lui?
Ah non, mais attendez. Non, parce que justement, plus la question est simple, plus elle est piège, en fait. Bon, vous allez apprendre à vous méfier avec moi. En fait, la force centrifuge, elle n'existe pas. Enfin,
je suis vraiment gogol, alors.
Non, pas du tout. Si on veut être rigoureux, on ne dit plus force centrifuge, mais on dit effet centrifuge. C'est un effet. Parce que quand on parle de force, c'est comme si quelque chose nous attirait, et c'est pas du tout ça, il n'y a pas d'attraction.
Oui, t'as raison, effet centrifuge, c'est plus logique, ouais, t'as raison.
Alors, est-ce que vous connaissez des exemples d'effets centrifuges dans la vie de tous les jours?
Quand on est à bord dans une voiture et puis qu'on tourne, on est éjecté sur le côté, voilà, c'est ça le truc.
Ouais, c'est exactement l'exemple que j'avais.
Dans les manèges aussi.
Ouais, voilà, c'est ça, dans les manèges, exactement ça. Donc en gros, dès qu'il y a un virage, on tourne à droite, et ben on est éjecté à l'extérieur du virage. Si j'ai un virage vraiment serré à droite, ouais, je suis compressé à gauche. Mais c'est quoi le rapport avec la stabilité d'un vélo en ligne droite? Parce que là, je parle de ligne droite, et pourtant, quand on parle d'effet centrifuge, on parle de virage. Bah justement, le truc, c'est qu'on va jamais vraiment strictement en ligne droite en vélo. Jamais.
On penche toujours de gauche et de droite.
Il y a un effet centrifuge qui vous envoie à l'extérieur du virage, à gauche, et du coup, ça redresse le vélo. Donc c'est ça qui vous remet dans le droit chemin.
Mais dis donc.
C'est tout simple, tout le monde connaît l'effet centrifuge, tout le monde l'a expérimenté, mais on oublie que bah, finalement, on s'en sert pour aller en ligne droite sur un vélo. Mais vous en doutez, on n'est pas des calculateurs vivants, hein, même si on est très fort. Vous allez tourner à droite, il y aura un effet centrifuge, il va vous ramener tout droit, mais dans votre élan, vous allez pencher à gauche. Vous allez sûrement ne pas être pile poil vertical. Donc pour encore corriger le problème, bah, vous allez tourner à gauche. J'ai failli me tromper. Parce que vous penchez trop à gauche, et en tournant à gauche, vous aurez un effet centrifuge à droite, qui va de nouveau vous mettre tout droit, mais pas complètement tout droit, vous allez être un peu trop à droite, et ainsi de suite. Donc au final, rouler tout droit, ça équivaut à faire des zigzags, même s'ils sont pas très perceptibles, en permanence, avec vos mains, inconsciemment, vous corrigez la trajectoire tout le temps, vous zigzaguez. Et si je mettais de la peinture sur mes pneus, en pleine ligne droite, même à 50 à l'heure, eh ben, on s'apercevrait que les traces laissées par les pneus sur le sol seraient en forme de zigzag.
Légèrement incurvées, ouais. D'accord.
Okay.
Donc on va faire le test. En permanence, voilà. Là, c'est ça, c'était la première explication.
Avant d'enchaîner, Bertrand, oui. Te propose qu'on parte à l'autre bout du monde. Enfin, c'est pas tout à fait l'autre bout du monde, on reste en Europe. On va avec Okan et son projet AVCLO. Il est en train de relier le Japon depuis la Suisse pour sensibiliser à l'AVC. Okan, c'est à toi.
Ciao, pause vélo. Alors, j'ai quitté les plaines du Pô pour arriver à Maestre. Maestre, c'est la ville en fait qui colle Venise. Là, j'ai pris une auberge de jeunesse parce que ça faisait 4 jours que je bivouaquais. J'avais besoin de recharger, comme d'habitude, mon matériel électronique. Ensuite, je suis arrivé dans Venise et cette ville, à chaque fois, j'adore cette ville. Il faut juste savoir que tu peux pas aller à Venise à vélo en fait. Enfin, si, tu peux y aller en vélo, mais tu dois laisser le vélo à l'entrée et tu peux pas te promener dedans en fait. Déjà, les rues elles sont tellement petites que tu ferais chier tout le monde. Je rentre, je me fais une pizza, obligé. Je me promène. Moi, j'adore me perdre dans Venise. Juste marcher, tu vois, parce que chaque ruelle, chaque rue, chaque bout de fleuve, là, elle a sa particularité. Moi j'adore juste flâner, en fait. À un moment, je tombe sur une petite échoppe où il y a une dame qui est en train de faire une mosaïque d'un visage. Avant de rentrer, je demande si je peux filmer, tu vois, au patron. Il me dit, ouais, pas de souci. Et on commence à sympathiser, en fait, avec le patron. Il habitait, en fait, à un moment en Suisse. Et il me dit, demain, tu sais quoi, je ferme le magasin, je te fais guide. Moi, je tombe des nues, quoi. Je dis, d'où tu fermes un magasin pour faire un guide à un gars que tu viens de connaître il y a 20 minutes, quoi. Et le gars, c'est pas n'importe qui, en plus. Hein. C'est un des meilleurs sculpteurs mosaïques. Une personne qui fait les mosaïques du visage au monde, quoi. Donc, on s'échange les numéros et je pars. Continue à me perdre un petit peu, marcher. Je m'achète une glace, des petits trucs à goûter. Et je me dis, mais jamais il va le faire, quoi. Le lendemain, je lui écris, je fais, est-ce que c'est toujours d'actualité ou bien? Il fait, ouais, pas seulement et tout. Donc, je retourne à Venise et là, je me fais un petit challenge. Je fais, retrouve les shops sans GPS. J'ai perdu une heure à essayer de retrouver. Je dis, non, laisse tomber. Franchement, c'est impossible de retrouver une ruelle dans Venise si tu connais pas, quoi. J'arrive à son échoppe, il était avec des clients. Enfin, ce que je pensais être des clients, du coup, j'attendais dehors pour pas mettre la pression. Et en fait, c'était pas des clients, c'était juste le voisin du commerce d'à côté, quoi. Et après, il a fermé le magasin et il m'a fait guide. C'était juste incroyable. Il m'a expliqué toute l'histoire en fait de Venise. Sa famille est vénitienne depuis le 13e siècle, quoi. Donc il connaît très bien la ville et tout. C'est juste fantastique, quoi. J'ai pu avoir des explications, l'histoire et des choses que les touristes ne connaissent pas, ne connaîtront probablement jamais. Il m'a fait aller dans les quartiers où il y a peu de monde. Il y a 3 ans, j'étais déjà venu pour le carnaval. Et il y avait moins de monde que maintenant, hors saison, quoi. tellement le tourisme est en train d'exploser, quoi. Et ça fait péter les plans vénitiens, en fait, parce que les gens, ils ont aucun respect. Enfin bref, ça, c'est un autre problème. Là, on parle du voyage. Donc, j'ai passé vraiment une journée folle. Il m'a fait rencontrer les meilleurs souffleurs de verre de l'île. C'était vraiment une journée magique, quoi. Je remercie encore Romuldo pour ça. Voilà, après, j'ai repris la route. J'allais direction Trieste. Et là, les routes, elles commencent à être un peu plus dangereuses. Tu vois, sur la route, c'est tout de suite, en fait, la glissière. Et ça commence à être vraiment très chaud parce que t'as les camions qui passent, t'as énormément de circulation dans les deux sens. J'étais crispé presque jusqu'à Trieste. T'arrives à Trieste et là, c'est la fin du plat, en fait. Et t'as en face de toi, tu vois les montagnes de la Slovénie. Et tu fais, ouf, la Slovénie, ce sera pour la semaine prochaine. Allez, pause vélo, bonne semaine. Ciao.
Merci Okan pour cette formidable aventure. On te retrouve la semaine prochaine. Et à présent, on est avec Bertrand, youtubeur de la chaîne Je m'énerve pas, j'explique. Un youtubeur science pour nous parler science et vélo. Et on apprend comment on fait pour tenir en équilibre à vélo. Continue tes explications, Bertrand. Là, on a, si j'ai bien capté, si je résume bien, en gros, tu dis que pour tenir en équilibre, en fait, on n'arrête pas de chuter à droite et à gauche et qu'on compense en tournant les roues. Et que finalement, quand on va en ligne droite en vélo, on est plutôt en zigzag.
C'est ça, on utilise l'effet centrifuge, tourne constamment pour contrecarrer la chute. On s'en aperçoit plus à très faible vitesse. Vous avez peut-être déjà essayé de rouler vraiment à très très faible vitesse, et c'est très difficile, il faut donner des gros coups de guidon pour justement rattraper la chute.
Exact, récemment j'ai essayé un vélo cargo, donc pour moi c'était un nouvel équilibre, un autre poids, etc. Comme j'avais peur au début, j'allais trop lentement. Et puis finalement, ça marchait pas du tout, j'arrivais même pas à tourner. Et quand j'ai pris un peu confiance et que j'ai commencé à aller vite, pas de problème, je faisais du vélo comme d'instinct, quoi.
Ça me rappelle aussi l'expérience que tu as fait avec un vélo inversé.
Oui,
vélo inversé de Barba Papi. Où justement,
quand on tourne à gauche.
Tu tournais à gauche, tu donnais des gros coups de volant à gauche, et puis c'était la chute.
Quand on tournait le guidon à gauche, la roue partait à droite, et en fait, c'est impossible de faire du vélo dans ces conditions-là.
Il faut l'entraînement.
Ouais.
Mais on voit de suite qu'on a le réflexe de tourner le guidon, franchement.
Ouais, d'instinct, ouais.
Ouais. C'est vrai que quand je vous pose la question, à haute vitesse, en ligne droite, on n'a pas le réflexe de dire c'est les virages, c'est l'effet centrifuge. Mais à basse vitesse, on se rend compte qu'on fait des gros virages pour justement compenser l'absence de vitesse. Mais pourquoi il faut des gros coups de guidon à faible vitesse et pourquoi des tout petits à grande? Donc celui qui a trouvé l'explication, ou en tout cas celui qui a mis une formule mathématique derrière tout ça, derrière l'effet centrifuge, il a fait 200 ans avant l'invention du vélo. Et vous connaissez peut-être indirectement ou directement, c'est un scientifique qui s'appelle Christian.
Christian Carambeu?
Non. Non. Alors, je l'ai prononcé à la française, mais
Christian.
En fait c'est Christian Huygens qui se prononce, alors c'est un Hollandais. Mais
je
ne
le connais pas personnellement.
Huygens, avec un Y là, c'est ça?
Ouais, H-U-Y-G-E-N-S, Huygens. Alors en hollandais, j'ai vérifié, ça se prononce Eugens, rien à voir.
Les Hollandais, ils n'avaient pas inventé le vélo, que déjà ils étaient dedans les gars. Tu vois.
Mais voilà.
Ils avaient déjà inventé l'effet centrifuge pour tenir sur le vélo qu'ils n'avaient pas encore inventé.
Ah, ils sont forts.
Ils étaient prêts. C'est vrai, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai, c'est un drôle de hasard. Cassini-Huygens, si je dis ça, Cassini-Huygens.
La sonde Cassini.
C'est une sonde.
Ah voilà, c'est ça. Donc c'est la mission qu'on a envoyée autour de Saturne il y a 20 ans. Elle est arrivée, je crois, en 2004 autour de Saturne. Et Huygens, c'est la sonde qui a carrément atterri sur le plus gros satellite de Saturne, qui s'appelle Titan. Alors pourquoi avoir nommé l'atterrisseur Huygens? Parce que c'est lui qui a découvert Titan il y a 350 ans avec son instrument d'observation. Tout ça après avoir observé les anneaux de Saturne. Bon, ça c'était une digression, ça n'a pas de rapport avec le sujet, mais Huygens, donc, il était donc astronome, mais aussi mathématicien et physicien. Et c'est lui qui a trouvé la formule de l'effet centrifuge, comme je viens de le dire. Et donc cette formule, qu'est-ce que c'est? J'ai hésité à mettre une formule, donc je ne la mets pas. Je vais juste vous dire que l'effet centrifuge, il est proportionnel à la masse. Bon, ça à la limite, on s'en fiche. Mais elle est aussi proportionnelle à la vitesse au carré. Donc si je vais deux fois plus vite dans un virage, l'effet sera quatre fois plus important. Ouais. Mais l'effet centrifuge, il est aussi proportionnel à autre chose, c'est la courbure du virage. En gros, plus le virage est serré, vraiment plus je tourne, plus l'effet sera important. Donc pour résumer, si je veux un gros effet centrifuge qui m'aiderait à me rétablir la verticale, soit je vais vite, et à ce moment-là, je n'ai pas besoin de virage serré. Ce qui arrive quand on roule vite en ligne droite, des petits coups de guidon suffisent pour un effet centrifuge important. Soit je vais lentement, Et pour compenser cette lenteur, je prends des virages très serrés afin d'avoir un effet centrifuge suffisant pour redresser le vélo. C'est des vases communicants. C'est, si je vais vite, il faut que je tourne peu.
Moins on va vite et plus on doit tourner le guidon, plus l'amplitude de la roue elle est large. C'est vrai que quand on va assez vite, finalement, on a l'impression qu'on a juste à se pencher et paf, on tourne. C'est ça que tu es en train de dire. Enfin, on tourne un peu la roue, mais à peine.
Non, je parlais plutôt de pencher le guidon, enfin de tourner le guidon que se pencher. Ça pencher, on y viendra juste après. D'ailleurs, j'ai des petites anecdotes sur l'effet centrifuge. Il y a pas que dans les voitures qu'on le voit, c'est aussi dans les films de science-fiction, dans les vaisseaux avec gravité artificielle. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Les gros vaisseaux où tu as une énorme roue là, qui tourne sur elle-même.
Oui.
Donc là, c'est vraiment, il faut que ça soit très gros hein, pour que ça soit déjà, pour que les gens soient pas malades dedans. Il faut que ça tourne suffisamment vite pour justement simuler la gravité. Et ça la simule vraiment. Hein. Autant on voit ça dans des films de science-fiction, autant si vraiment on arrivait à construire ce genre de vaisseau, ça marcherait. Si on arrive à faire tourner une roue suffisamment grande et suffisamment vite, on peut recréer la gravité, l'équivalent de la gravité terrestre. Et cette gravité terrestre, je ne sais pas si vous la connaissez, on l'exprime souvent, on dit que ça vaut 1G. En fait, dans un avion de chasse, ça va tellement vite, et ils arrivent à prendre des virages tellement serrés qu'ils arrivent à dépasser les 10G. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Ouais, ça un peu t'écraser, ça veut dire que 10G, c'est 10 fois ton poids.
Voilà, on a l'impression que la Terre est 10 fois plus lourde, donc qu'on est vraiment écrasé 10 fois plus qu'avec la gravité terrestre. Donc c'est énorme. Hein. 10G, si ça dure un peu trop longtemps, si c'est un virage vers le haut, virage vers la droite ou gauche, ça dépend. Hein. Mais si ça dure trop longtemps, on tombe dans les pommes. Et si ça dure vraiment trop longtemps, je pense que du coup, le sang n'arrive plus au cerveau et on décède bêtement.
C'est dangereux le vélo quand même.
Je pense que c'est mais vous doutez bien qu'il n'y a pas besoin de faire 10G ou même 1G hein, pour, pour maintenir en équilibre. Hein. C'est beaucoup plus petit. Hein. Je n'ai pas fait les calculs, j'avoue, j'ai eu la flemme. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer que l'effet centrifuge, on peut s'en servir autrement que pour rester debout sur un vélo. Et j'ai même un dernier exemple. Ça, c'est voilà. Pour en finir avec l'effet centrifuge, enfin presque, il y aura encore un paragraphe après, il y a beaucoup plus performant qu'un avion de chasse en fait pour exploser les records d'effet centrifuge. Et c'est quelque chose que tout le monde a chez soi, c'est le lave-linge.
Ah oui, d'accord. Ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre les gamins dedans, d'accord.
Exactement. Et alors justement, il y a des gens qui ont fait les calculs.
Tu veux en faire un astronaute.
Exactement. Bah, j'ai fait les calculs. Moi, j'ai vérifié après sur Internet quand même. Alors, j'ai fait le calcul de combien de G on se prend quand on est dans un lave-linge. Moi, j'ai fait un calcul avec 1400 tours minute. Donc, c'est un bon lave-linge. Hein, c'est du haut de gamme. Et bah, mine de rien, c'est comme si on allait à 100 km/h dans un virage de 20 cm de rayon. À votre avis, combien... Alors, je vous laisse faire une proposition chacun. Combien de G on se prend ?
La vitesse au carré fois...
Non, mais comme ça, un ordre de grandeur.
T'as pas une calculette, là ?
Sur tangente 50 G. Tangente sur l'infini sur mes chaussettes au carré, ça fait 50 G, ouais, ça serait c'est pas mal, c'est ça, pas mal, ouais. 50 G, ça fait du bien là.
Alors en fait, 1400 tours minute avec 20 cm de rayon, non, c'est 400 G.
Bim !
400 G. Donc si vous mettez un slip qui pèse, je sais pas, on va dire un slip bien épais qui pèse 100 grammes, enfin, c'est comme si il pesait 400 fois plus.
40 kilos.
Et c'est pour ça que ça sèche bien. Et c'est ce qu'il faut en fait pour séparer l'eau des vêtements. Dernière chose sur l'effet centrifuge. Pourquoi depuis le début je dis que c'est pas une force ? Cette force en fait c'est une sorte d'illusion. Et pour comprendre, mais on n'a qu'à imaginer un univers totalement vide. Et je laisse une pomme dedans. Je pousse la pomme. Elle va avancer en ligne droite à vitesse constante pour environ l'éternité. Tout ça parce que le seul mouvement possible, naturel, pour un objet soumis à aucune autre force que celle que j'ai imposé au départ. Après, quand je lâche, elle n'est plus soumise à aucune force. Mais le seul mouvement naturel, c'est la ligne droite à vitesse constante. Ça marche partout dans l'univers. Quand je tourne le volant dans ma voiture, je demande à ma voiture de tourner, ce qui n'est pas naturel. Mais l'univers, lui, veut que j'aille en ligne droite. L'univers veut que je prenne la tangente. Et la tangente d'un virage à droite, eh bien, elle se situe à gauche du virage. Mon corps veut aller en ligne droite, mais en fait, c'est ma portière gauche qui m'en empêche. C'est juste ça. Je ne sais pas si c'est plus clair. Mais en tout cas, voilà.
Du coup, quand on prend un virage à droite, on penche pas à gauche, enfin, on n'est pas expulsé à gauche, on veut juste continuer tout droit, quoi.
C'est ça, on veut continuer tout droit, et heureusement, il y a la portière qui est là pour nous empêcher de sortir de la voiture. C'est une explication vraiment très rapide, basique de l'effet centrifuge.
Mais qu'on comprend.
Voilà. Et là, il y a peut-être une question qui vous vient à l'esprit. Pour tenir en ligne droite, on a besoin de nos mains. Comment ça se fait qu'on arrive à tenir en vélo sans les mains?
Comment on fait pour tenir en vélo sans les mains?
C'est le corps qui penche après à gauche à droite au niveau
des épaules.
De la
c'est les jambes qui rattrapent le cou ou pas?
C'est les fesses.
C'est pas ça.
Ah, bon.
Bon, même si ça se trouve, il y a peut-être moyen, hein, mais en tout cas, là, c'est différent. Quand on ne tient pas le guidon, l'explication, là, elle se tient plutôt dans la conception même du vélo. Pourquoi le vélo tient tout seul sans qu'on le tienne avec les mains? Bah, je pense que vous avez déjà tenu un vélo par la selle. Bah, vous descendez du vélo, vous le tenez par la selle. Imaginez, vous le penchez à gauche. Qu'est-ce qui se passe?
Bah, il tombe.
Vous le tenez par la selle, vous le penchez, vous ne lâchez pas, hein, vous le tenez par la selle, vous le faites pencher à gauche. Qu'est-ce qui se passe au niveau du guidon?
Il y a la roue avant qui tourne.
Exactement.
Ne demande pas de quel côté.
Quand vous penchez le vélo à gauche, en le tenant par la selle, eh ben, là, toute seule, vraiment sans que vous, juste en penchant le vélo, sans tenir le guidon, en touchant uniquement la selle, le guidon va tourner à gauche. Et ça, c'est grâce à ce qu'on appelle la chasse. Alors, qu'est-ce que c'est la chasse?
On dit que les roues elles chassent, par exemple dans un virage, ça ne suit pas, c'est ça?
Ah non, c'est un peu différent, là.
La chasse, c'est en ce moment, là, c'est la saison.
C'est pas cette pratique qui consiste à tirer sur des cyclistes.
Non, c'est pas ça. Ah oui, ça, c'est vrai qu'il y a eu des histoires avec ça. Non, alors c'est autre chose. En fait, vous avez sûrement remarqué que toutes les potences et fourches du monde entier ne sont pas verticales. L'axe de la potence plonge vers l'avant. Et donc, si je prolonge l'axe de la potence jusqu'au sol, ça va toucher le sol en un point. Et ce point, il est devant le point de contact entre le pneu et le sol.
Ouais.
Parce que, voilà, on penche en avant. Et c'est grâce à ça que, en fait, quand on penche le vélo à gauche, la roue tourne facilement à gauche. Alors, pourquoi je raconte tout ça? Eh bien, justement, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Quand, sans que je le veuille, le vélo penche à gauche, eh bien, même si je ne tiens pas le guidon, grâce à la chasse, grâce au fait que ma potence soit inclinée, la roue va toute seule tourner à gauche, en fait. Automatiquement, quand le vélo penche à gauche. Et c'est exactement ce qu'on veut. Puisque quand je penche à gauche, ce que je veux, c'est je veux un effet centrifuge qui me ramène à droite.
Oui.
Là, ça devient compliqué, je sens.
Alors, tu veux dire que si le centre, l'axe de la roue était pile poil dans l'axe de la potence, s'il n'y avait pas cette inclinaison de la fourche qui met la roue un petit peu en avant, ça ne serait pas aussi simple de faire du vélo? C'est ça que tu veux dire?
Alors, ça mérite beaucoup de pincettes. Parce qu'il y a des gens qui ont réussi à construire des vélos un peu bizarres dans les laboratoires de physique. Et là, j'avoue qu'il faudrait que je vous oriente vers un article de Science Étonnante. Il parle justement de l'importance de la chasse. Est-ce qu'on peut faire un vélo qui se contrôle sans chasse? Chasse négative, je crois que c'est pas possible. Mais en tout cas, il faut que l'axe de la potence, quand il atteint le sol, soit devant le point d'impact du pneu pour que vraiment la roue fasse ce qu'on veut.
Mais alors, si je comprends bien là, ce que tu viens de nous expliquer avec la chasse, tout ça. Moi, je prends mon vélo, je le lâche en haut de la côte. Ouais. Il atteint une certaine vitesse. Enfin, il devrait réussir à descendre jusqu'en bas sans tomber.
Exact. Bah, c'est ça. C'est ce qui arrive, non? Ah, vous avez jamais vu de vidéo là-dessus
Oui, exact. Oui, des vélos qu'on... Bon, ça reste pas très longtemps droit, mais s'ils ont pris une vitesse, ils restent quand même plus longtemps droit que si on les lâche.
Et c'est tout à fait ça. Voilà. Donc ça, c'était pour la ligne droite. Donc la conclusion, c'est pour aller en ligne droite, il faut tourner.
Voilà. Ok.
C'est une belle philosophie de vie, en fait.
Oui, c'est ça. Mais là, se pose une autre question. Comment est-ce qu'on fait pour tourner?
On va tout droit.
Bah alors, soit on tourne le guidon, soit on se penche, non? Je dis des conneries.
Disons que tu as deux fois moitié raison.
Non, d'accord, ok.
Vous êtes sur la bonne piste, hein, parce que de toute façon, vous faites du vélo, hein, vous savez que vous vous penchez quand vous tournez. Mais pour vraiment bien comprendre, j'aimerais vous poser une autre question. Donc imaginez, votre vélo est parfaitement vertical. Donc vous roulez à 50 à l'heure, comme d'habitude, hein, depuis le début, on roule à 50 à l'heure.
Sans les mains.
50 à l'heure, c'est quand même beaucoup.
C'est normal. Donc vous êtes à 50. Non, j'insiste sur le fait que vous êtes parfaitement vertical, pile poil à l'équilibre. Vous avez un virage à gauche qui est très serré à prendre, vraiment un sacré virage. Là, vous avez une seule action possible. Dans quel sens vous tournez le guidon pour tourner à gauche?
On le tourne à gauche. J'ai bon là.
J'ai pas osé moi.
Vous venez encore de tomber à 50 km/h.
Encore?
Oui, là, c'est une énorme chute.
Et c'est pour ça que je roule pas à 50 moi.
Bah non, parce qu'en fait, il fallait tourner d'abord à droite. Parce que si vous êtes bien vertical et que vous tournez le guidon à gauche, on a dit depuis le début, vous allez être emporté par l'effet centrifuge à droite. Et donc vous allez tomber à droite. Ça, on ne veut pas. Il faut qu'on trouve un moyen de contrebalancer l'effet centrifuge, parce qu'on veut quand même aller à gauche. Tout le monde arrive à faire des virages à gauche, c'est possible. Donc comment on fait pour contrebalancer l'effet centrifuge ? Eh bien, il faut se pencher, comme vous l'avez dit, il faut se pencher à l'intérieur du virage. Et justement, depuis le début, comment est-ce qu'on fait pour se pencher à gauche quand on est à vélo ?
Je ne peux rien répondre,
on tourne à droite.
Exactement, voilà, c'est ça. Il faut tourner à droite pour se pencher à gauche. Voilà.
En fait, c'est facile, il faut juste qu'on réponde le contraire de ce qu'on pense.
C'est ça.
Très contre-intuitif, en fait. Hein.
C'est contre-intuitif et pourtant, vous le faites systématiquement. Donc, si vous voulez tourner à gauche, d'abord, il faut tourner le guidon à droite, ce qui vous fait pencher à gauche. Et là, du coup, vous êtes dans la bonne position pour entamer votre virage à gauche. Ensuite, vous pouvez tourner le guidon à gauche, ce qui va donner un effet centrifuge à droite. Mais comme vous êtes penché à gauche, eh bien, les deux effets s'annulent, enfin s'annulent, se compensent, on va dire, et ça vous permet de ne pas tomber, de ne pas être expulsé à l'extérieur du virage. Donc la conclusion, c'est que pour tourner à gauche, il faut d'abord tourner à droite. En fait, il y a un effet dont je n'ai pas parlé depuis le début, et c'est vrai que vous auriez peut-être, je pense que vous le connaissez, en fait, c'est l'effet gyroscopique. C'est ce qui permet notamment une toupie de ne pas tomber quand on la fait tourner suffisamment vite. Donc l'effet gyroscopique, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est quand la roue tourne sur elle-même et qu'on penche à gauche, eh ben, l'effet gyroscopique va tourner le guidon à gauche aussi. Mmh. Parce que ma roue tourne vite. Donc finalement, l'effet gyroscopique, c'est une assistance au virage. Mais en fait, pour un vélo, l'effet il est négligeable. Parce que l'effet gyroscopique il dépend de la masse de la roue qui est en train de tourner. Et cette masse, elle est vraiment très faible par rapport à la masse du cycliste.
Est-ce que tu peux nous refaire ça en résumé ? Redis-nous d'un coup en résumé tout ce que tu viens de nous apprendre. Comment on tient en équilibre en vélo ? Juste pour être sûr qu'on a bien compris.
Pour tenir en équilibre en vélo, en fait, on utilise l'effet centrifuge. En ligne droite, on n'arrête pas de tourner le guidon, en fait. C'est des très faibles virages, mais en tout cas, on le fait, inconsciemment, mais on le fait. Ce qui permet d'empêcher la chute grâce à l'effet centrifuge. Et dans le virage, eh ben, on tourne à droite pour aller à gauche, on tourne d'abord à droite pour aller à gauche, puis on retourne à gauche pour profiter justement de l'effet centrifuge, pour se pencher.
Tout simplement, maintenant on sait comment tirer en équilibre en vélo.
C'est très gentil, mais maintenant qu'on a toutes ces informations en tête, qu'on a conscience de tout ça, je sens que la prochaine fois qu'on va prendre le vélo, on va tomber.
Mais c'est ce que je suis en train de me dire, ouais.
Eh ben, on rappelle ta chaîne YouTube, Bertrand, c'est Je m'énerve pas, j'explique. Alors, t'es quand même un gros truc, t'as 80 000 abonnés, je crois.
À peu près, ouais.
Ouais, non, mais ça marche, hein, les YouTubeurs de science, ça marche. On est content que tu sois venu nous expliquer tout ça.
Sans t'énerver.
Ouais, sans t'énerver.
Exactement,
parce que pourtant, tu partais de loin avec nous, hein. Nous, fallait. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité.
I need to share the stories behind photographs on the wall, and I couldn't bear to have suffered this pain for no reason. I made my mistakes and I paid the price, so help me. She ain't gonna be around tomorrow.
vain. Don't let it be in vain.